Bible et théologie, voilà que nous poursuivons avec Louis Pernaud, bonjour.
Bonjour.
Avec Louis Pernaud, le pasteur Louis Pernaud, nous poursuivons notre parcours au travers de la prière du Notre Père, que nous avons commencé au début de ce mois. Je signale, et le signalerai plus tard encore, que Louis Pernaud a écrit un livre qui s'appelle « Le Notre Père », abrégé de tout l'Évangile, et aux éditions de Paris. Est-ce qu'on peut rappeler, Louis Pernaud, un petit peu le plan de Notre Père, comment il est découpé, très très vite, pour qu'on sache où on en est.
Le Notre Père est une prière passionnante, parce que d'abord c'est le seul exemple de prière qui est donné par le Christ dans l'Évangile lui-même. Et puis, d'autre part, il est une réponse à la question des disciples qui demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Donc on peut penser que le Christ a vraiment mis, s'il a dit les mots comme nous les avons aujourd'hui, a vraiment mis dans cette prière l'ensemble, l'essentiel de ce qu'il faut demander. On peut donc lire le Notre Père de plusieurs manières, soit comme une sorte de leçon de prière qui consiste à expliquer ce que nous pouvons demander, ce que nous devons demander, c'est-à-dire ce qui est de la nature même de la demande dans la prière. Et ça, c'est déjà une chose importante parce que la prière est parfois une sorte de fourre-tout dans laquelle tout le monde met tout et n'importe quoi en réclamant le beau temps pour demain, la santé pour sa grand-mère, le gaz à tous les étages, etc.
Alors, le plan du Notre Père, il y a un découpage.
Et puis ensuite, mais je vais y venir, et puis ensuite le Notre Père peut aussi être lu, et c'est ce que j'ai proposé de faire surtout dans mon livre, comme un texte de théologie, c'est-à-dire que vraiment il permet de préciser au mieux les rapports entre Dieu et l'homme, c'est-à-dire ce qui est Dieu, qui est l'homme et comment nous sommes invités à vivre ensemble. Alors le Notre Père est très très bien construit parce qu'en effet, il commence par un appel à Dieu qui est déjà toute une théologie puisqu'on l'appelle Père. Après, nous avons trois demandes spirituelles, pourrions-nous dire, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis après, trois ou quatre demandes, alors là on ne sait pas, suivant les théologiens, mais mettons quatre, moi j'en vois quatre. Quatre demandes terrestres qui sont « Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal ».
Et alors il y a entre ces deux parties, ces demandes spirituelles et ces demandes dites terrestres, dont nous verrons d'ailleurs qu'elles sont profondément spirituelles aussi, il y a une espèce de liaison qui est le fameux « sur la terre comme au ciel » dont vous nous avez dit déjà la dernière fois, et nous allons repartir de là, que en fait ça appartient aux deux parties de la prière, cette terre et ce ciel.
Oui, parce que nos traductions habituelles qui sont pleines de défauts, d'erreurs et de contresens veulent rattacher le « sur la terre comme au ciel » uniquement à la volonté. Donc nous disons « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Alors que tous les exégètes aujourd'hui, les théologiens, pensent que cette petite phrase n'est pas à rattacher uniquement à la question de la volonté, mais est vraiment le pivot de la prière qui fait passer du spirituel au terrestre, au matériel, du céleste au terrestre. Et d'ailleurs, notre traduction est encore fautive parce qu'elle met à l'envers. Elle dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, alors que le texte originel met « Comme au ciel, ainsi soit la terre ». C'est-à-dire qu'on part du ciel pour arriver à la terre.
C'est assez logique.
C'est tout à fait logique, puisque c'est Dieu qui crée, et que c'est à partir de notre spiritualité, à partir de notre prière, que nous pouvons vivre sur terre. Et donc c'est bien parce que nous savons sanctifier le nom de Dieu, c'est bien parce que nous savons le reconnaître comme roi, c'est bien parce que nous voulons accomplir sa volonté, c'est bien parce qu'il y a cet enracinement céleste, je dirais, dans la vie du croyant, qu'il pourra accéder au pardon, qu'il pourra résister à la tentation et qu'il pourra avoir le pain qu'il lui faut pour vivre. Et donc cette petite phrase est le point de la charnière entre le spirituel et le matériel, la charnière entre Dieu et nous-mêmes, en quelque sorte. Et donc il faudrait, dans la prière, le considérer comme une sorte indépendant. Donc on devrait dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » Point. Et ensuite, nous disons, comme une demande indépendante en quelque sorte, comme au ciel qu'ainsi soit la terre, c'est déjà tout un programme. C'est-à-dire que nous voudrions que le royaume de Dieu s'accomplisse effectivement sur terre. Or, le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix, c'est la tendresse, c'est le pardon, c'est la joie, c'est la vie et l'amour. Eh bien, nous voudrions que sur terre, toutes ces réalités célestes puissent devenir des réalités terrestres. Et pour cela, eh bien, nous allons avoir besoin de toute l'aide de Dieu pour accomplir les trois ou quatre demandes suivantes, qui sont des demandes humaines.
Alors, des demandes humaines, mais précisément, la question se pose immédiatement à propos du pain. Est-ce que c'est vraiment simplement une demande très matérielle? Vous, dans votre livre, vous expliquez, vous dites pourquoi est-ce que je serais privilégié alors que d'autres meurent de faim? Est-ce que ça veut dire qu'ils ont mal prié et que moi je vais avoir le pain parce que j'ai bien prié? Bon, est-ce que c'est une demande purement matérielle?
Ça, c'est une vraie question et je dois dire que c'est ce point précis est celui sur lequel il y a le plus de débats à propos de ce que j'ai pu écrire. Parce que moi, j'ai pris l'option, et on va en reparler pour le préciser, de dire que la prière ne doit être que de l'ordre de demande d'ordre spirituel. Et en particulier, c'est ce que je comprends quand on dit « notre Père qui est aux cieux », donc ça veut dire « notre Père qui est spirituel ». Et si Dieu est spirituel, on lui demande les choses spirituelles. Les choses matérielles, c'est le terrestre, et ça, c'est de la responsabilité de l'homme. Donc ça, c'est ma théologie à moi. Mais je sais que de très nombreux chrétiens entendent justement dans cette demande du pain une demande très concrète. Donne-nous notre pain quotidien, c'est-à-dire, eh bien, fais en sorte, Seigneur, que j'ai à manger tous les jours, c'est-à-dire que ma vie physique, matérielle, puisse perdurer en quelque sorte. Alors ça, ça m'a toujours gêné. J'avoue, cette lecture très matérielle de la demande du pain m'a toujours gêné. Et je me souviens en particulier quand j'étais scout, on chantait avant chaque repas des bénédicités. Voilà, et on dit pour ce pain que tu nous donnes, merci Seigneur, et pour ce repas, pour toute joie, nous te louons Seigneur. Et c'est une très belle chose que de remercier Dieu et de rendre grâce, hein, donc je ne veux pas empêcher les gens de le faire. Mais en même temps, moi, ça m'a toujours gêné parce que j'avais un peu l'impression que c'était comme de dire « Seigneur, je te remercie, moi je suis en bonne santé et j'ai plein à bouffer. Merci Seigneur, tu me gâtes. » Et puis en même temps, alors les Somaliens, les Éthiopiens et tous les gens qui crèvent de faim à l'autre bout du monde, qu'en est-il d'eux? Alors est-ce que nous devrions penser que nous remercions Dieu de nous faire une sorte de petit cadeau personnel qu'il refuserait à d'autres? Et dans ce cas, pourquoi est-ce que Dieu me donnerait à moi du pain et pourquoi est-ce qu'il le donnerait à d'autres? Il le refuserait à d'autres. Et remercier Dieu pour le pain que nous avons, c'est supposer que c'est lui qui le donne, donc que c'est lui qui le refuse aux Éthiopiens. Et moi, j'ai jamais pu faire ce genre de prière parce que je ne crois pas que Dieu puisse vouloir que les Éthiopiens meurent de faim. Et je ne crois pas que la famine en Éthiopie puisse être l'objet de la volonté de Dieu, ni que notre abondance et le fait que nous soyons tous trop gros soient une sorte de grâce que Dieu nous donnerait parce qu'il nous aimerait plus que les Éthiopiens.
Alors, ce qui est intéressant au passage, c'est que dans votre livre, vous nous amenez un moment sur une piste qui est la tentation du Christ. Change ces pierres en pain. Et vous dites, est-ce que nous serions pas non plus dans cette tentation du pain? Enfin bon, c'est peut-être pas l'essentiel. Par contre, je remarque, je vais parler comme les politiques, j'observe, donc c'est vous qui observez, Louis Pernod, que cette demande est au centre. À la charnière de la prière. Or, toutes les demandes, faites-vous observer, précédentes, sont des demandes dites spirituelles. Et pourquoi celle-ci, qui semble être d'ordre terrestre, ne serait pas non plus, elle aussi, spirituelle? Ce serait une réponse à votre question de la manière de lire ce pain, dont vous faites observer d'ailleurs que cette demande pour le pain est liée à la demande suivante.
C'est-à-dire que je voudrais mettre de côté pour l'instant la question de la possibilité d'interprétation matérielle de cette demande. Il faudra qu'on y revienne parce que je l'ai évacuée là très rapidement et on peut néanmoins la réhabiliter un petit peu. Mais il est vrai qu'en tout cas, on peut l'interpréter comme une demande d'ordre spirituel, pur même. On pourrait l'interpréter comme ça, c'est plutôt ce que j'aurais tendance à faire. Hein. Ça n'est pas compliqué. C'est vrai que le pain dans le Nouveau Testament est souvent considéré comme un don spirituel. C'est vrai, vous l'avez cité, dans les tentations du Christ, quand Jésus dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel ». C'est vrai dans le discours sur le pain de vie, avec le Christ dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, c'est ça, 50 et quelques, hein, où il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui me mange vivra éternellement ». Et donc là aussi, on voit bien que le pain dont il est question, c'est un pain qui vient du ciel. Et ce pain, eh bien, c'est le pain de la présence de Dieu, c'est le pain de...
Oui, et puis Jésus dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père ».
Voilà, il le dit à la Samaritaine dans Jean aussi.
La Samaritaine, oui.
Donc effectivement, il y a une nourriture spirituelle. Et le pain, alors, on pourrait aller jusqu'à l'Eucharistie, enfin la Sainte Cène, où il est évident que quand on communie au temple, le but, c'est pas de se faire une bonne bouffe. Et la communion, ce n'est pas un repas fait pour nous rassasier matériellement. La communion, c'est pour dire, nous voulons nous nourrir de la présence du Christ, nous nourrir de sa parole, de son enseignement, de son évangile et de tout cela. Et donc, le pain est évidemment peut-être vu dans tout le Nouveau Testament comme quelque chose d'extrêmement spirituel. Et nous pouvons demander à Dieu de nous donner le pain dont nous avons besoin chaque jour, c'est-à-dire la force, l'énergie, l'espérance, le courage, la foi, l'amour, c'est-à-dire toutes ces choses dont notre vie a éminemment besoin parce que nous avons faim et soif de justice, de pardon, d'amour, et c'est cela que Dieu peut nous donner. Quant au croissant chaud, eh bien, vous adressez-vous au boulanger du coin plutôt qu'à Dieu, et quant aux Somaliens qui meurent de faim, eh bien, adressez-vous à l'aide humanitaire plutôt que de leur envoyer des papiers avec écrit le Notre Père en disant « Mes bons amis, vous crevez de faim, vous n'avez qu'à prier le Notre Père avec plus de ferveur et Dieu se chargera de vous nourrir ». Donc je crois que le pain matériel, c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du terrestre, justement, et que précisément ces demandes, prétendument terrestres, de la fin du Notre Père, sont en fait des demandes très célestes et très spirituelles.
Alors, il y a une vraie question, c'est « Donne-nous notre pain ». Alors, traduction quotidien de ce jour, nous allons voir que ce n'est pas si simple. Il y a là, vous nous l'expliquez très bien, un terme en grec qui est parfaitement intraduisible.
Mais c'est ça qui est très drôle. C'est que le texte grec dit « Donne-nous notre pain », et après il y a un mot que personne ne sait traduire. Alors, suivant les traductions, on dit « Notre pain de ce jour »,« Notre pain quotidien »,« Notre pain de demain ». Alors là, l'étude de ce mot est très intéressante. Ce mot est intraduisible parce qu'il n'apparaît que là. Dans tout le Nouveau Testament, c'est ce qu'on appelle un apax, et il est très très rare également dans la littérature grecque classique, et donc en fait c'est un mot inconnu, qui n'existe pas. Alors on a deux façons d'essayer de savoir ce qu'il peut vouloir dire. Certains ont voulu d'abord lire l'étymologie du mot. Épi ousion, en grec, épi ça veut dire au-dessus de, et ousia c'est l'essence. Et donc on peut dire c'est le pain qui est au-dessus de la substance. D'ailleurs, ça a été traduit comme ça par les cathares, qui, dans Notre Père, disaient en latin « Donne-nous notre pain supersubstantiel ». Alors là, moi, je suis ravi de cette étymologie, parce que le pain qui est au-dessus de la substance, ben, c'est le pain spirituel, c'est le pain métaphysique. Donc c'est tout sauf le pain matériel. Donc là, je suis enchanté de cette étymologie possible. L'autre interprétation possible nous vient de Saint Jérôme. Parce que Saint Jérôme, je ne sais plus c'était quoi, au 4-5e siècle à peu près,
oui,
entreprend de retraduire le Nouveau Testament. Alors il fait un voyage à Jérusalem, et là, il dit « J'ai trouvé l'original hébreu de l'évangile de Matthieu, que nous n'avons pas. Aujourd'hui, Matthieu, nous n'en avons qu'une version grecque. Beaucoup de gens pensent qu'il y avait un original hébreu, mais qui a disparu. » Et Saint Jérôme dit « Moi, j'ai eu sous les yeux l'original hébreu de Matthieu. » Évidemment, Saint Jérôme connaissait ce mystère de Épiousion, qui était intraduisible. Donc, il se précipite sur le passage où il y a le Notre Père, et il raconte dans ses mémoires, donc, « Et j'ai vu le mot hébreu qu'il y avait en dessous de Épiousion. » Et le mot hébreu qui est en dessous de Épiousion, c'est le mot hébreu « mahar », qui veut dire en hébreu « de demain ». Alors, « de demain », voilà, « de demain ». Et donc, c'est de là que vient d'ailleurs nos traductions « Donne-nous notre pain de demain » ou autre. Alors, « de demain ». Bon, alors pourquoi est-ce qu'on demande à Dieu de nous donner le pain de demain? Ça, c'est un peu un mystère. Est-ce qu'on ne lui demande pas une avance sur salaire? Alors, c'est tellement incompréhensible que les gens ont mis notre pain quotidien, mais Épiousion peut vouloir dire super substantiel ou de demain, mais certainement pas quotidien ni de ce jour. Alors, le de demain est quand même très intéressant parce que On peut le comprendre d'une façon, là aussi, spirituelle et eschatologique, comme on dit, c'est-à-dire le pain des fins dernières, le pain du royaume, c'est-à-dire de demain, mais le demain, c'est quand le royaume sera accompli, quand le Christ sera revenu, quand Dieu aura tout donné, en quelque sorte. Et du coup, ce pain de demain, c'est le pain eschatologique du royaume de Dieu, et non pas nécessairement le pain du 15 janvier, si nous sommes le 14. Et je crois qu'effectivement, du coup, nous retrouvons cette idée de pain spirituel, parce que le pain du royaume éternel de Dieu, c'est aussi nécessairement un pain spirituel.
Vous êtes toujours dans notre Bible et théologie du dimanche avec le pasteur Louis Pernaud qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Notre Père abrégé de tout l'Évangile » aux éditions de Paris. Et nous sommes dans tout ce mois de janvier dans un grand parcours du Notre Père et nous sommes aujourd'hui dans la demande du pain. Alors, question, tout à l'heure, Louis Pernaud, vous avez expliqué que vous aviez plutôt tendance à spiritualiser aussi cette demande, à avoir ce qui est le pain spirituel, c'est ce qui nous est donné, la présence du Christ, la joie, l'amour, etc. Mais vous ne voulez pas finalement quand même complètement éliminer la question, est-ce qu'une demande matérielle est légitime et est-ce qu'on peut quand même s'y raccrocher ?
Ça c'est une bonne question. C'est un vrai objet de débat, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on peut demander des choses matérielles à Dieu dans la prière ou est-ce que la prière n'est pas que de demander des choses d'ordre spirituel ? C'est un vrai débat. A priori, je l'ai déjà dit, ma tentation théologique à moi, c'est plutôt de dire l'essentiel de la prière doivent être des demandes d'ordre spirituel. Mais nous pourrons revenir un peu plus tard. Je vais essayer on finira quand même en justifiant un peu la prière d'ordre matériel parce que beaucoup de chrétiens la pratiquent et après tout, moi aussi. Mais je vais quand même essayer de vous redéfendre ma thèse de base qui est qu'a priori, il faut quand même demander des choses spirituelles. D'abord, pastoralement, parce que je vois en tant que pasteur trop souvent des gens perdre la foi ou s'éloigner de Dieu parce qu'ils ont prié matériellement et qu'ils n'ont pas été exaucés. En particulier des gens qui ont subi des épreuves très graves, la mort d'un enfant ou autre chose, ou d'une maladie, et qui disent « pourtant j'ai prié, mais comment Dieu peut-il m'aimer s'il tue tous mes enfants ou s'il me fait subir une telle chose ?» Alors là, soit on a une foi totale comme Calvin qui disait « c'est la volonté de Dieu que mes enfants meurent, pour l'instant je n'y comprends rien, je comprendrai plus tard que la volonté de Dieu soit faite ». Mais ce type de foi aujourd'hui, au XXIe siècle en Occident, est très problématique. Et donc souvent, la théologie contemporaine aujourd'hui, de plus en plus, essaye de séparer Dieu des événements matériels, en fait, en disant « la toute-puissance de Dieu ne s'exerce pas dans ce domaine-là ». La toute-puissance de Dieu est une puissance d'amour, de pardon, et qui nous permet de revivre quels que soient les événements. Et tout ce qui arrive n'est pas nécessairement la volonté de Dieu. Et par conséquent, que les Éthiopiens meurent de faim n'est pas forcément programmé par Dieu. C'est une grande misère terrestre contre laquelle nous devons lutter. Et c'est vrai que la demande d'ordre matériel, je l'ai un peu critiqué tout à l'heure et je vais encore le faire, me choque parce que on a parfois l'impression que c'est une demande de piston qu'on demande à Dieu finalement. Alors on dit Seigneur, fais que mon enfant guérisse. Mais si je dis Seigneur, fais que mon enfant guérisse et tous les milliers d'autres enfants qui sont en train de mourir, je dis quoi pour eux? Alors je dis, Seigneur, voilà, il y a des milliers d'enfants qui meurent tous les jours, je m'en fiche, mais le mien, sauve-le. Je ne vois pas comment ça pourrait être une prière d'ordre, une prière chrétienne, une prière dans l'amour, en quelque sorte. Ou alors, est-ce qu'on penserait que Dieu serait comme ces camelots à Beaubourg ou ailleurs, vous savez, ces cracheurs de feu? Alors on jette des pièces, et puis quand on a acheté suffisamment de pièces, ils acceptent de faire leur numéro. Alors Dieu serait là, il laisse les peuples...
la comptabilité du volume de nos demandes.
Voilà, alors Dieu serait là en train de se dire, je pourrais empêcher la guerre à tel endroit. Mais il y a eu combien de chrétiens qui ont prié? 2000. Oh bah tu penses, pour 2000 prières, je ne vais pas empêcher la guerre, ou je ne vais pas empêcher la famine en Éthiopie. Laissons la famine. Et puis 300 000 chrétiens prient contre la famine en Éthiopie. Alors Dieu commence à se dire, là je dois dire que je vais peut-être faire quelque chose. 3 millions de chrétiens qui prient. Dieu dit, allez d'accord, c'est bon. Ça, c'est insupportable comme idée, pour moi en tout cas. Donc je pense que si Dieu peut faire quelque chose, il le fait de tout cœur. Et sinon, je crois que la puissance de Dieu, c'est d'inviter les hommes à pouvoir lutter eux-mêmes contre la famine. Donc c'est vrai que cette prière d'ordre matériel, moi, m'a toujours semblé très problématique. Et c'est pourquoi j'ai tendance à vouloir spiritualiser la plupart des demandes, même comme celle du pain.
Et puis je voudrais faire une toute petite remarque, parce que c'est toujours à propos de l'exaucement. Alors j'ai demandé, j'ai prié, et puis j'ai pas été exaucé. Moi je suis toujours un peu scandalisé par ça, parce que je suis persuadé que nous sommes toujours exaucés, mais l'exaucement c'est pas forcément dire oui à tout ce que nous demandons. Ah. Parce que si je prie en disant Seigneur que mon voisin se jette par la fenêtre et s'écrase par terre, il est probable que la réponse ne sera pas celle que je demandais. Donc je pense que Dieu répond toujours, mais il ne répond pas forcément selon notre volonté à nous. C'est évident. Donc l'exaucement, ce n'est pas forcément automatique.
Oui, et d'ailleurs, il y a un très beau passage dans l'évangile de Luc où on dit « Demandez, il vous sera donné. Et si vous, qui êtes méchant, quand votre fils vous demande du pain, est-ce que vous lui donneriez une pierre, etc. ?» Et le texte conclut en disant « Combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il » etc. Et donc je me suis dit, ce texte contredit ce que je pense, puisqu'il a l'air de dire que Dieu donnera tout ce qu'on lui réclame. Jusqu'à ce que je regarde le texte de plus près et que je découvre que dans l'évangile de Luc, justement, dans ce beau texte sur l'exaucement, Jésus ne dit pas « Combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il tout ce que vous réclamez ?» mais il dit « Combien, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à celui qui le demande ?»
J'aimerais vous
citer... Et donc, l'objet de la prière, c'est l'Esprit Saint.
J'aimerais vous citer dans votre livre, pour qu'on entende un petit peu ce que vous avez écrit. Vous écrivez « Alors, que Dieu peut-il nous donner ? Non pas n'importe quoi, mais ce qui est conforme à sa nature de donner, c'est-à-dire les dons de l'esprit. Et les dons de l'esprit, ce n'est pas le compte en banque, ni le beau temps pour le week-end, pas même la santé physique ou une longue vie. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon Jésus aurait été privé de bien des dons de Dieu, n'ayant eu ni une longue vie, ni l'argent, ni les possessions, ni la gloire, ni même des enfants. N'ayant pas eu apparemment de descendance physique. Ce que Dieu nous donne, écrivez-vous, Louis Pernod, ce sont les dons de l'esprit, et ces dons, Paul nous en a donné la liste en Galates 5, 23, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ah. Donc on est encore dans la spiritualisation, évidemment.
Alors ça, oui. Bon, ça, c'est ma théologie de base, mais comme je vous le dis, c'est le point sur lequel j'ai le plus de discussions de la part de mes lecteurs. Alors je voudrais là réhabiliter en quelque sorte la demande d'ordre matériel. Et on peut le faire de différentes manières. Soit en disant que, justement, dire par exemple que ta volonté soit faite à Dieu, c'est une façon de... je dirais, de se départir de son propre égoïsme et de sa propre volonté. Alors là, ce serait une sorte de prière matérielle inversée, de dire à Dieu, écoute, c'est toi qui sais, c'est toi qui veux, que ta volonté soit faite, fais au mieux, et s'il se passe quelque chose, c'est que tu l'as voulu. C'est la théologie de Calvin, qui avait certains mérites, parce que ça permet de montrer justement que ce n'est pas la volonté de l'homme qui compte, mais c'est celle de Dieu. Bon, mais une fois de plus, ça suppose une théologie de la toute-puissance de Dieu qui est discutable. Ce qui est plus juste, à mon avis, c'est de dire que même si l'objet de la prière sont des demandes spirituelles, il n'empêche que nous sommes des êtres incarnés. Et que, par exemple, la préoccupation de notre propre santé, de ce que nous aurons à manger demain, ou la préoccupation de la santé de nos enfants ou d'autres choses, ne sont pas des préoccupations pécheresses. Et ça fait partie de notre vie. Or, je crois que la prière consiste à tout partager avec Dieu dans une relation de confiance. Et donc, il n'y a rien, aucun sujet qui soit interdit de partager avec Dieu. Par conséquent, si moi, de tout cœur, j'ai le souci de la santé de mon propre fils, je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas avec Dieu, sous prétexte que ce n'est peut-être pas une question très spirituelle. Et par conséquent, je crois que dans la prière, on peut parler de nos soucis. Et c'est peut-être plutôt la façon de le dire ou de l'exprimer. Certainement, dire à Dieu « Seigneur, guéris mon enfant », ce serait vouloir imposer à Dieu sa propre volonté, et Dieu, il fait ce qu'il veut après tout. Hein. Bon, c'est pas à moi d'expliquer à Dieu ce qu'il a à faire. Mais par contre, dans la prière, je peux dire « Seigneur, tu sais à quel point je suis soucieux de la santé de mon enfant, et tu sais à quel point j'aimerais de tout cœur qu'il guérisse. » Et ça, je peux le dire à Dieu. Et je crois que la prière est peut-être parfois une formulation maladroite, mais néanmoins très réel, très, très proche de ce que ressentent les gens. Et quand, par exemple, un chrétien dit « Seigneur, fais, dans un mariage, on prie pour les mariés, Seigneur, fais que ces mariés soient heureux », c'est comme les vœux de la bonne année. Et si je vous dis « bonne année », c'est pas parce que je vous dis « bonne année » que votre année sera meilleure, mais j'exprime un vœu et j'exprime un souhait. Et donc je dis « de tout cœur, je vous souhaite une bonne année ». Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Ou je peux dire « de tout cœur, je voudrais que mon enfant guérisse ». Mais je peux le dire puisque c'est vrai. Et le chrétien, sa façon d'exprimer un vœu, c'est de dire « je prie Dieu pour que mon enfant guérisse ». Ou alors « je prie Dieu pour vous et je prie Dieu pour votre guérison, je prie Dieu que vous ayez une bonne année ». Alors si on le prend au pied de la lettre, oui, il y a une théologie discutable là-dessous, mais je crois qu'il y a une véritable expérience humaine qui consiste à exprimer un vœu, un souhait, et de le remettre à Dieu. Alors plutôt que de dire à Dieu ce qu'il faut faire, j'aimerais bien que, à la limite, où on dise à chaque fois « Seigneur, j'aimerais que mon enfant guérisse, toutefois non pas ma volonté mais la tienne », comme le disait Jésus lui-même à Gethsémané, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que cette demande matérielle, si on ne la prend pas au pied de la lettre comme une demande à la fée Clochette de faire « fais un vœu et je l'exaucerai », si c'est une manière de partager avec Dieu sa préoccupation, à ce moment-là, c'est une très belle chose. Et on peut dire à Dieu, même à propos du pain matériel, « Seigneur, eh bien, de tout cœur, j'espère que j'aurai encore, demain et après-demain, la force physique et matérielle de pouvoir continuer à vivre et de te louer et de te servir. »
La semaine prochaine, toujours avec Louis Pernaud, nous poursuivrons notre parcours dans le Notre Père, cette fois avec la demande du pardon. Donc nous vous donnons rendez-vous, même heure, dimanche prochain, pour la poursuite du Notre Père avec le pasteur Louis Pernaud. Merci.